Tu écoutes le podcast Culture Générale de Major Prépa, la référence des étudiants en prépa, en partenariat avec Audencia Business School.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts Major Prépa en partenariat avec Audencia Business School, consacrée à la question de la mémoire qui est le thème de Culture Générale des secondes années. Je me trouve aujourd'hui avec Francis Eustache. Francis, bonjour.
Bonjour.
Francis Eustache, vous êtes neuropsychologue et directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Vous dirigez à l'INSERM une unité de recherche à l'Université de Caen, neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine, qui travaille en particulier sur les maladies liées à la mémoire. Et vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages sur la question de la mémoire, notamment Les chemins de la mémoire, coécrit avec Béatrice Desgranges et publié aux éditions Le Pommier. Pour ce premier podcast avec vous, Francis Eustache, vous allez donc nous proposer un panorama des différentes pathologies qui affectent la mémoire.
Alors, les troubles de mémoire sont très nombreux, sont très diversifiés et peuvent prendre des formes extrêmement diverses. En fait, peut-être les plus impressionnants, c'est ce qu'on appelle les syndromes amnésiques. Alors, un syndrome amnésique, c'est un trouble disproportionné de la mémoire par rapport à d'éventuels autres troubles cognitifs donc qui surviennent chez une personne. Alors ça peut être une survenue brutale, par exemple dans un traumatisme crânien. Un traumatisme crânien peut entraîner un syndrome amnésique. Ça peut être une évolution plus lente, par exemple dans le syndrome de Korsakoff, chez des patients qui sont des grands éthyliques chroniques et qui progressivement vont développer des troubles de mémoire qui vont conduire à un syndrome amnésique. Alors dans le syndrome amnésique, il y a toujours deux grands volets. Ce qu'on appelle une amnésie antérograde, c'est-à-dire que le patient a du mal à acquérir des informations nouvelles de façon générale. Et puis, il y a aussi une amnésie qu'on appelle rétrograde. Rétrograde, ça veut dire que le patient va oublier au moins une partie de son passé. Donc, un syndrome amnésique, ce sont ces deux volets, amnésie antérograde, amnésie rétrograde, et en principe d'origine organique, c'est-à-dire que c'est en rapport avec une lésion du cerveau, avec une maladie du cerveau. Et à partir de là, il y a toutes sortes d'étiologies qui peuvent conduire à ce syndrome amnésique. Le syndrome de Korsakoff, c'est le plus souvent l'éthylisme chronique, un traumatisme crânien, mais ça peut être également une encéphalite, comme une encéphalite herpétique, et toutes sortes d'autres pathologies, des accidents vasculaires cérébraux, une tumeur cérébrale, enfin toutes sortes de lésions du cerveau vont conduire à un syndrome amnésique. Ces syndromes amnésiques peuvent être définitifs, mais ils peuvent également être transitoires, c'est-à-dire durer quelques heures et ensuite se résorber. C'est le cas de l'ictus amnésique idiopathique. C'est la forme de syndrome amnésique donc transitoire la plus fréquente. Donc il survient chez une personne d'à peu près une soixantaine d'années, le plus souvent, qui va bien, qui est en bonne santé. Et brutalement, la personne devient totalement amnésique. C'est-à-dire qu'elle perd une grande partie de son passé, et elle est incapable d'apprendre des informations nouvelles. Et c'est très impressionnant parce que toutes les deux minutes, la personne repose les mêmes questions. On a beau lui répondre et pose à nouveau les mêmes questions. Et ça dure comme ça quelques heures et puis ensuite les choses rentrent dans l'ordre. Alors comme je l'ai dit, ces syndromes amnésiques sont d'origine organique. Mais il existe également des amnésies dites psychogènes ou fonctionnelles qui surviennent généralement après un traumatisme psychologique et donc là, qui n'ont pas d'origine organique évidente. Alors, la forme la plus connue de ces amnésies fonctionnelles, c'est ce qu'on appelle l'amnésie d'identité. Alors, c'est une amnésie particulière parce que la composante antérograde est relativement peu marquée, c'est-à-dire que la personne continue à apprendre, mais au contraire, la composante rétrograde est disproportionnée. Et ça va jusqu'à la perte d'identité. C'est-à-dire que ce sont des gens qu'on va retrouver dans une gare, souvent, ou dans un aéroport, en train d'errer. Des fois, ils prennent la voiture ou ils prennent un vélo, puis ils font des dizaines, des centaines de kilomètres, des fois. Puis ils sont retrouvés très loin de leur domicile. Et s'ils n'ont pas leurs papiers, on ne sait pas qui ils sont. Donc, il faut faire des enquêtes de police pour les retrouver. Alors voilà, pour ces premiers exemples de troubles de mémoire, donc qui sont très, très importants. Juste un mot sur les grandes maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, qui font partie de ces troubles de mémoire, bien entendu, parce que la maladie d'Alzheimer, elle est généralement les premiers symptômes inauguraux ce sont des troubles de mémoire. Mais toutes ces maladies dégénératives évoluent vers des troubles d'autres domaines de la cognition. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement spécialisé sur les troubles de la mémoire. Donc en cela, c'est à la fois des maladies de la mémoire, mais c'est plus généralement des maladies de la cognition. Et puis alors, il y a d'autres perturbations que l'on peut observer dans des situations extrêmement diverses. Parce qu'en fait, la mémoire, c'est une fonction très fragile. Et quand une personne est aux prises avec une difficulté, par exemple un problème de santé important, mais qui n'a rien à voir avec le cerveau, par exemple, ça a été beaucoup étudié dans le cancer du sein chez la femme, parce que c'est un cancer assez fréquent. Donc une personne qui est aux prises comme ça avec une maladie potentiellement très grave, mais elle va développer des troubles de mémoire qui sont parfois très importants. Et c'est d'ailleurs notable et c'est très important que les médecins en prennent compte, par exemple, pour leur expliquer comment se soigner, expliquer le diagnostic, etc. Parce que à certains moments, la personne va très mal encoder les informations. Alors, ça entraîne sur la voie d'un sujet qui mérite d'être traité, c'est le lien entre les émotions et la mémoire. En fait, quand une personne est dans une situation émotionnelle particulière, cela va entraîner des modifications de la mémoire. Alors, dans certains cas, l'émotion va être bénéfique, c'est-à-dire qu'un peu d'émotion, ça va renforcer le travail de la mémoire, mais si au contraire, l'émotion est exacerbée, alors à ce moment-là, ça va entraîner une distorsion de la mémoire. Alors, c'est ce qu'on observe dans ce que l'on appelle les amnésies traumatiques. C'est-à-dire quand une personne est confrontée à un événement traumatique majeur. Alors, ces dernières années, on a beaucoup parlé des attentats, mais c'est aussi vrai pour les soldats qui sont dans des zones de combat. C'est aussi vrai de quelqu'un qui est agressé. C'est tout le domaine des agressions sexuelles, par exemple. Donc, quelqu'un qui est aux prises avec un événement qui l'affecte personnellement, ou encore quelqu'un qui est en contact avec un événement traumatique pour une autre personne et pour lequel il est complètement démuni, il ne peut pas agir. Alors à ce moment-là, l'émotion est intense et elle va entraîner une perturbation de la mémoire avec certains éléments qui vont être rehaussés et puis d'autres au contraire qui vont être édulcorés, qui vont être dégradés. Alors, généralement, ce qui se passe, c'est que le contexte est mal encodé. Le contexte général de la scène est mal encodé. Et puis la personne va au contraire focaliser son attention sur un élément particulier. On parle parfois de focalisation sur l'arme. C'est-à-dire que quelqu'un qui se retrouve avec un pistolet, comme ça, va détailler le pistolet. Il va être capable de donner une description extrêmement précise du pistolet. Mais par contre, il ne va pas avoir encodé ce qui entoure le pistolet et parfois même le visage de la personne qui tient le pistolet. Donc, cette distorsion, elle est très importante parce qu'elle va entraîner par la suite des souvenirs très particuliers. Les souvenirs traumatiques, en fait, ce ne sont pas des vrais souvenirs. Parce que quand on forme des souvenirs d'un événement quelconque, eh bien, ces souvenirs, ils vont évoluer au fil du temps. Ils vont avoir tendance à un petit peu se perdre au fil du temps, à perdre en précision. Et puis, ils vont s'amalgamer à d'autres connaissances que l'on a sur le monde. Alors, les souvenirs traumatiques, c'est pas ça. Ce sont des éléments disparates de la scène vécue. Vous voyez, c'est pas une représentation globale de la scène vécue, mais ce sont des éléments disparates, très sensoriels. Donc ce sont des images, ce sont des bruits, ce sont des odeurs, et très émotionnels. Et ces différents éléments s'imposent à la conscience de la personne avec une distorsion du temps. Alors ça c'est très important, parce que dans un souvenir habituel, quand on se retrouve dans un souvenir, on a bien cette impression de voyage dans le temps. C'est-à-dire qu'on sait que le souvenir appartient au passé. Alors que dans le souvenir traumatique, ce sont ces éléments sensoriels qui s'imposent à la conscience de la personne et la personne a à nouveau l'impression de les vivre au présent. C'est pour ça qu'on parle de blessés psychiques. Ce sont des blessés psychiques parce que en permanence, ces personnes ces victimes, elles se trouvent à nouveau en contact avec la scène traumatique, avec l'événement traumatique, ce qui est évidemment extrêmement difficile pour elles. Et elles vont construire tout un système pour essayer d'éviter le retour de ce que l'on appelle des intrusions. Les intrusions sont ces images, vous voyez, qui s'imposent à elles. Et donc la personne va mettre en place un système de protection. Alors c'est ce qu'on appelle le syndrome d'évitement, parce qu'à son tour, ça devient un syndrome, dans le sens où ça peut prendre une forme exacerbée. C'est-à-dire que la personne va complètement s'enfermer pour se protéger de ces intrusions. Alors se protéger, ça veut dire ne pas prendre par exemple les moyens de transport, ne pas sortir de chez soi, etc. Enfin, ça peut prendre des formes extrêmement fortes qui vont beaucoup gêner la vie courante de la personne. Et puis en aval de cela, il y a des réactions émotionnelles intenses. Là, en présence d'un indice, la personne va se mettre à transpirer, les mouvements du cœur qui vont s'accélérer. Souvent des éléments de dépression, souvent aussi des éléments qui s'apparentent à des addictions,